Les 13 heures.
Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 13h à Paris. L'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Pour un coup d'accélérateur de la compétitivité européenne, les dirigeants des 27 en sommet informel en Belgique en ce moment face à la Chine et aux États-Unis. Le constat d'urgence est partagé mais pas forcément la marche à suivre. Des milliers d'immeubles supplémentaires sans chauffage à Kiev en Ukraine en plein milieu de l'hiver. Après de nouvelles frappes russes contre les installations énergétiques, l'ONU appelle Moscou à cesser ses frappes contre les infrastructures civiles. C'est la fin du cauchemar au Bangladesh, c'est ce que dit Mohamed Yunus, chef du gouvernement provisoire. Le pays a voté aujourd'hui pour des législatives un an et demi après le soulèvement de la génération Z. À suivre aussi la feuille de route énergétique de la France, priorité au nucléaire, toujours trop de polluants chimiques dans les assiettes des Français selon l'agence sanitaire, même s'il y a des progrès. Et puis les JO d'hiver, le super G féminin, l'italienne Federica Brignone décroche l'or, la française Romane Miradoli l'argent. Le journal des sports tout chaud, c'est dans un petit quart d'heure.
RFI midi.
L'Ukraine a vécu une nuit terrifiante à Lozova, selon un responsable de cette ville de l'Est.
Frappée par des attaques de missiles et drones russes qui ont fait au moins 2 morts, 2 civils. Nouvelle frappe russe aussi à Kiev, la capitale ukrainienne, où l'on vous retrouve en direct. Emmanuel Chaz, en plein milieu de l'hiver, ces frappes ont une nouvelle fois visé des installations énergétiques, alors que la situation en matière d'énergie, notamment de chauffage, est déjà très très critique.
Tout à fait, oui, c'est une nouvelle attaque à grande échelle donc qui a secoué l'Ukraine cette nuit. 25 missiles et 219 drones selon les autorités. Ils visaient le secteur énergétique. Au moins 9 missiles seraient passés à travers la défense antiaérienne ukrainienne et on les a entendus ici dans la capitale. L'alerte aérienne n'avait pas encore sonné lorsque les premières explosions ont retenti. Donc pour beaucoup d'habitants, il était trop tard pour se mettre à l'abri. Pour vous donner une idée de la force de telles explosions, à chacune d'entre elles, le ciel tout entier s'illuminait comme en plein jour et ces explosions, elles ont une nouvelle fois plongé des dizaines de milliers de civils dans le froid. Il y avait déjà plus d'un millier d'immeubles résidentiels sans chauffage depuis les frappes de début janvier. Impossible, selon le maire Vitali Klitschko, de les reconnecter tant les dégâts sont lourds sur les infrastructures énergétiques. Suite aux frappes de la nuit, ce chiffre a plus que doublé. Plus de 2600 immeubles de la capitale sont privés de chauffage et plus de 100 000 personnes sont aussi privés d'électricité. Le reste de la population vit avec quelques heures de courant par jour. Ici, il s'agit véritablement de survivre à l'hiver alors que les frappes russes continuent.
Emmanuel Chaz, correspondante de RFI en direct de Kiev, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, rappelle que viser des infrastructures civiles est interdit par le droit international. La guerre en Ukraine qui fait tache d'huile au JO d'hiver de Milan, Cortina, l'athlète ukrainien Vladislav Eraskevich a été disqualifié des épreuves de skeleton et cela pour son casque avec des photos de sportifs ukrainiens tués pendant le conflit. Casque contraire au règlement selon le CIO qui lui avait proposé de porter un brassard noir. L'athlète a refusé le prix de la dignité selon lui.
De son côté, le pouvoir russe confirme le blocage de WhatsApp dans le pays.
Oui, des restrictions donc déjà appliquées en Russie sur Telegram, WhatsApp, la messagerie américaine est très populaire en Russie. Le Kremlin a donc bloqué et justifie cette décision par la réticence de WhatsApp à respecter la loi russe, Anissa El-Jabri.
Les difficultés de WhatsApp avaient commencé cet été avec notamment le blocage des appels. À cette époque, le motif évoqué par les autorités était le fléau des escrocs par téléphone très répandu en Russie. En parallèle, le pouvoir insistait pour que les Russes adoptent la nouvelle messagerie nationale. Max. Confirmation que le double mouvement est amplifié à la mi-journée par le porte-parole du Kremlin.
Max est une alternative accessible, une messagerie encore en développement, mais une messagerie nationale. Elle est disponible sur le marché pour les citoyens comme alternative. En ce qui concerne le blocage de WhatsApp, nos autorités compétentes ont en effet déclaré que la décision de bloquer avait été prise en raison de la réticence de Meta Corporation à se conformer aux normes et à la lettre de la loi russe, et elle a été mise en œuvre.
Le reproche est nouveau et c'est le même que celui adressé à Telegram, actuellement très ralenti. En attendant, les Russes tentent de préserver leur usage via le recours au VPN, mais là aussi, le gendarme de l'Internet est très actif. Selon le journal Commerçante, mi-janvier, Roskomnadzor avait bloqué au total plus de 400 VPN. C'est une augmentation de 70% par rapport à l'automne dernier. Anicel Jabri, Moscou, RFI.
Les dirigeants des 27 réunis en ce moment dans un château médiéval à Halden, en Belgique, pour booster la compétitivité européenne.
Un château transformé en forteresse. On parle de sommets informels, de retraites ou encore de séances de réflexion. Bref, il s'agit d'accélérer les réformes face à la concurrence chinoise et aux droits de douane américains. Bonjour Laura Salabert.
Bonjour.
Le constat, il est partagé. Hein, il y a urgence, selon les dirigeants européens, à réformer le marché unique pour gagner en efficacité et donc en compétitivité.
Oui, il y a urgence car depuis la crise de 2008, la puissance économique européenne dégringole. La part de l'UE dans le PIB mondial est passée de 30% en 2004 à moins de 15% aujourd'hui. Mais comment faire ? Pour l'instant, les 27 ne sont pas tous d'accord sur la marche à suivre. La France et l'Allemagne notamment sont divisées sur la question de la préférence européenne qui obligerait certaines entreprises à privilégier le « made in Europe ». Paris et Berlin ne partagent pas non plus la même position sur l'émission d'une dette commune européenne, mais le temps presse. En marge du sommet ce matin, Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe devait prendre des décisions très concrètes d'ici juin. À défaut, il faudrait avoir recours à des coopérations renforcées, a dit le président français. Autrement dit, permettre à un petit groupe d'États volontaires d'appliquer des réformes sans attendre les autres. Mais les chefs d'État gardent l'espoir de trouver des consensus. D'ailleurs, ce matin, le président français et le chancelier allemand se sont présentés ensemble devant les caméras, soucieux d'afficher leur unité.
Malgré donc les divergences, merci Laura Salabert.
18h07 à Dhaka, au Bangladesh, où l'on a voté aujourd'hui pour des élections législatives.
Premières élections depuis le soulèvement de la jeunesse, la génération Z. C'était il y a un an et demi et cela avait provoqué la chute de l'ex-première ministre Sheikh Hasina. Ce scrutin doit donc permettre au pays de tourner la page. Vous l'avez suivi, Abdoulaye Rally. On vous retrouve en direct de Dhaka où vous êtes notre envoyé spécial. Autorités, politiques, militaires, tous s'accordent à saluer, c'est ça le bon déroulement du vote.
Oui, on peut commencer par ce que Mohamed Yunus a déclaré. Le chef du gouvernement intérimaire a déclaré que c'est une journée de libération. Sur le plan politique, les principales figures ont déjà pris la parole. Tariq Rahman, le leader du BNP, a mis la pression sur la commission électorale pour une publication rapide des résultats afin d'éviter toute confusion. De son côté, le docteur Shafiqo Rahman, chef de la Jamaat-e Islami, a salué le rôle crucial de l'armée. S'il a dénoncé quelques tentatives d'occupation des bureaux par des partisans du BNP, il s'est félicité de l'intervention rapide des soldats. Et concernant la sécurité, le ton est au soulagement ici. Le chef de l'armée a confirmé que le scrutin s'est déroulé de manière très paisible, selon lui. Un constat partagé par le commissaire de police de Dhaka. Le dépouillement va commencer dans les prochaines heures. Les premières estimations de participation sont très encourageantes pour les Bangladais. On attend un taux situé entre 55 et 60%. Et c'est un véritable bond en avant par rapport au précédent exercices qui plafonnaient péniblement autour de 40%. Les premières tendances sont attendues dans la soirée, mais les résultats officiels ne seront connus en théorie qu'à la mi-journée demain, Charlotte.
Et on vous retrouvera, Abdoulaye Rally, envoyé spécial de RFI à Dhaka, pour suivre donc ces premiers résultats.
Et nous reparlerons de ces élections législatives, de ces élections pour un référendum aussi, puisqu'une série de réformes constitutionnelles étaient proposées aujourd'hui, avec notre invité dans une dizaine de minutes maintenant.
En bref, c'est confirmé en Inde. New Delhi approuve l'achat de nouveaux avions de chasse Rafale français. Annonce avant une visite prévue d'Emmanuel Macron la semaine prochaine.
RFI à Paris, 89 FM.
Autre visite, c'est la première représentante allemande à se rendre à Gaza depuis les attaques du 7 octobre 2023. La présidente du Bundestag, la chambre basse du Parlement, a passé environ une heure tout à l'heure dans le territoire palestinien, dans le secteur contrôlé par l'armée israélienne.
En Syrie, à Souaïda, dans le sud, un suspect appartenant aux autorités de Damas a été arrêté après le meurtre la semaine dernière de plusieurs civils dans cette province à majorité de Russes.
Oui, la peur s'empare de cette minorité qui craint de redevenir une cible après les massacres attribués aux forces affiliées à Damas en juillet dernier. À cause des violences de ces derniers jours, l'acheminement des personnes et des denrées à Souaïda est très très compliqué, avec des conséquences directes pour les habitants à Blajounaïdi.
Entre de longues coupures d'internet, nous avons pu joindre Saad, habitant de Souaïda. Il décrit une situation critique pour les civils les plus vulnérables comme lui.
Les denrées sont plus chères car certains marchands profitent de la situation de blocage. La production agricole n'est plus suffisante. Tous les jours, Souaïda subit des tirs d'artillerie et la population civile est en danger permanent. Les vols de biens en particulier, les voitures sont très fréquents. Nous vivons une crise humanitaire et morale. Face à des institutions absentes, c'est l'anarchie, les milices armées prolifèrent et on ne peut plus s'exprimer librement.
Jointe par Guilhem Deltaï, Soha Aizi, journaliste et militante druze, est coincée à Damas par le blocage de la route reliant la capitale à Souaïda. Un acte délibéré des autorités centrales, selon elle.
Les druzes, au fond, savent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à ce gouvernement. On a vu comment ces groupes nous ont traités à Idlib. Ils refusent de qualifier de massacre ce qu'ils ont fait en juillet dernier à Souaïda. Ils prétendent libérer Souaïda. Mais la libérer de qui? De ses habitants historiques? Voilà pourquoi les gens en appellent à l'autodétermination.
Dernière région à échapper aux autorités de Damas, dominée par les islamistes, le sud syrien s'attend à tout moment à une intervention armée similaire à ce qu'a vécu le nord-est syrien le mois dernier.
À Madagascar, le chaos à Tamatav après le passage du cyclone Gezani. Le dernier bilan encore provisoire est de 35 morts. Le dirigeant de Madagascar, le colonel Ranjanirin, en appelle à la solidarité internationale. On va y revenir dans Afrique Midi avec Nicolas sur Midi 30, temps universel.
En France, quelle politique énergétique pour les 10 prochaines années? Quelle production d'énergie renouvelable? Quelle consommation d'énergie fossile?
La feuille de route du pays dans le domaine est présentée aujourd'hui officiellement par le Premier ministre sur fond d'intenses débats politiques. Bonjour Victorien Villaume.
Bonjour.
Sébastien Lecornu, pour l'occasion, s'est rendu sur le barrage hydroélectrique du Saumortier dans le Jura. Vous êtes sur place. Ce plan pluriannuel de l'énergie, comme on l'appelle, il se faisait attendre.
Oui, 2 ans et demi d'attente face aux divisions politiques, mais finalement le voici. Et Sébastien Lecornu, en effet, a décidé de se rendre sur le terrain aujourd'hui pour présenter la copie. Il y avait urgence à tracer un chemin, a affirmé tout à l'heure le Premier ministre. Alors ce plan nous apprend entre autres que le gouvernement acte un rétropédalage en voulant finalement relancer massivement le nucléaire, que le gouvernement veut continuer à développer les énergies renouvelables, mais veut freiner sur les éoliennes et sur les énergies solaires. Ce plan prévoit aussi de réduire la consommation d'énergie fossile. Alors cette nouvelle stratégie énergétique est accueillie plutôt favorablement à gauche, hors la France insoumise. Les écologistes et le Parti socialiste se félicitent que la feuille de route des 10 prochaines années soit désormais actée et qu'elle fasse la part belle aux énergies renouvelables, même si c'est insuffisant pour les Verts. En revanche, Charlotte, levée de bouclier à droite, le RN et les Républicains jugent trop favorable la place accordée à ces énergies renouvelables. Le RN parle même de conséquences dévastatrices de la stratégie énergétique du gouvernement, sans pour autant brandir une menace de censure.
Victorien Villaume, en direct du Jura, où le Premier ministre présente donc cette feuille de route énergétique.
En France encore, toujours trop de polluants dans les assiettes.
Selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'exposition des Français à certaines substances chimiques dans leur alimentation reste préoccupant. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
On parle là de charmantes substances, cadmium, aluminium ou encore mercure, et pourtant Pauline, il y a quelques progrès.
Oui, la bonne nouvelle Charlotte, c'est en effet que la concentration moyenne de plusieurs de ces substances, l'acrylamide, l'argent, l'aluminium ou encore le plomb, a globalement baissé par rapport à la précédente étude. Le hic, c'est que ce n'est pas vrai pour tous les aliments pris individuellement. Dans les produits à base de céréales comme le pain, les biscuits sucrés ou encore les pâtes, les aliments qui contribuent le plus à notre exposition à l'aluminium, au cadmium et au plomb, eh bien la quantité de ces substances nocives a augmenté. Leur concentration augmente aussi dans certains légumes, mais ça ne veut pas dire, Charlotte, qu'il faut arrêter de manger des légumes. Leurs bénéfices nutritionnels restent incontestables. D'ailleurs, l'idéal est d'avoir une consommation variée pour éviter la surexposition à une substance. Et tout le monde n'est pas exposé de la même manière. Les enfants sont particulièrement concernés. Selon Le Monde, 76% des enfants sont exposés à des valeurs qui dépassent la valeur toxique de référence de l'aluminium. L'aluminium qui peut provoquer, entre autres, des troubles psychomoteurs.
Et alors, comment est-ce que ces métaux lourds se retrouvent dans l'alimentation ?
Alors, il y en a naturellement dans l'environnement et les activités humaines contribuant, rajoutées, agriculture, industrie, trafic routier, tous ces secteurs utilisent ou produisent des traces métalliques. Elles se retrouvent ensuite dans les sols, l'eau ou l'air et donc dans l'alimentation.
Pauline Glaise du service environnement. Un petit mot rapidement. En Guyane française, l'effervescence qui monte à Kourou avant le lancement prévu tout à l'heure de la fusée Ariane 6 avec à son bord une trentaine de...
C'est sur le 99.1. كرك عند نومي ويغيب عني نعاسي نعاسي تفكرك عند نومي ويغيب عني حينك شاب راسي أيلي أيلي والغالي ربي
أيلي أيلي يا سيدي ربي
وش نعمل وش المعمول وش المحيلة تنفعني معاه راس حبيب من الحجاز قصد الغرب علي البراز يا النوم الازرق قفيل السرق هذا من حكيم خرع المتمجين كي حب وشجيع الفرصة علم في حرب النساء بلي بالطاسة وسلبات الشمسة بين البنات جل عنهم طول الحياة جل مدروخ يتخصى وزل عنها تيدور شمدين وتشور موصل وزمور سب ظريفة قادرة وباهية وطيفة زايدة للزين وبتحافة العود كتخبل وتسيح معاه الحجازي وشغل الشاب يوم صيلة على جمع الرياب وعياط الغرب مع الكلاب 18 عام عندها في عمرها ضرب خضرها في صغرها عندي كثرة في العشرة ولا تسب عني صبرا في كل يوم تقتلي حتى جل حرز تطور من حلاس بعون الحسين كي يحسدوني في ليل العياد عن انعاط صادف القصر سكن بيد الواد والبحر تملك بيها وملكات وزن العزمية وعد يحكم عنه مير زينها وفرض الحراس اعمل رصاد على المغاز جرابين العشير وعويشة والحماس راس حليم بالحقاق
الحربة بتخصي المناسبة زولت الجلبة وذلت كسوت قاعدي كتاب ديرو في شبيح اليسرى في الحياة كسلوك الفضة قصدت للقصر أنت قول صاد تيقول وتدعو يا حكيم قلت حرز لي مقاللية أشعنا بيك يا مغربي قلت لي أنا قبيل بلاد جيت مستبرك منك يا حكيم طعنك في حق القريم تمشي عندي للدار للضيافة قهوة وقال لي يا معتزلي ما نمشي في بعض السلام واكلكم عندي حرام انتي قاضي خدع عرف حالك صد عليا اوعدي واش القضي مثلك جيتي هماس وعويشة والحراز حراز حكيم ابن الحقاد
HDR. Bon.
From hell, how niggas supposed to find heaven? Your daddy tried rapping, your granddad rapping. You scared to go to jail, so you ain't thought about trapping. Looking at the ceiling, wait to make a killing.
Vous écoutez HTR 99.
HTR.
C'est sur le
99.1.
Le mixte.
Salut, c'est Mathieu Morand. Retrouvez-moi tous les jeudis à partir de 20h sur Radio HDR. Et cette saison, on remonte le temps. Chaque semaine, un nouvel épisode de mon émission Hard Time Machine, un voyage musical sur la planète métal à travers le temps.
Qu'y a-t-il pour votre service ?
Ici Londres, votre émission un mercredi sur deux de 17h à 18h. Venez découvrir les portraits des